Là, vous voyez, je vous montrais la nécessité de que l'intelligence doit découvrir, dans sa connaissance de Dieu, de se séparer de toute composition. Ce qui fait que, vous voyez, je découvre que Dieu, dans son existence, est infiniment simple. Et que cette simplicité, elle est parfaite en lui. Alors pour ça, ça réclame de moi, vous voyez, une connaissance de Dieu comme l'ayant découvert comme acte pur. Alors ça, on en reviendra, question-réponse, sujet de devenir et de l'être, pour essayer de débroussailler ce que ça peut vouloir dire. Et en même temps, toute réalité que j'expérimente implique une limite. Mais de la même chose, négativement, Dieu est sans limite. Dieu est infini. Et cette infinité, une répercussion qui n'est pas une répercussion de pure transcendance, mais qui implique une certaine immanence, c'est ce que le théologien appelle la présence d'immensité. C'est que Dieu, tout en étant infini, est présent à toute réalité, en tant que toute réalité est unie à lui par l'acte créateur. Et que Dieu est plus intimement présent aux choses que les choses sont présentes à elles-mêmes. Et je crois qu'une des autres catégories qu'il faut, que je constate, c'est la catégorie du temps. Est-ce que Dieu est dans le temps ? Vous voyez, étant acte pur, il n'implique pas de potentialité. Donc il n'implique pas d'antériorité, de postériorité. Il est éternel. Et par là, je peux conclure qu'en ayant Dieu, il n'y a aucune division. Il y a une unité souveraine. Alors, je vous renvoie à votre expérience dans la lumière de cette cause créatrice et la lumière de l'expérience que vous avez de la réalité pour découvrir quelles sont les connaissances fondamentales que vous avez de la réalité. Et à partir de là, est-ce que vous pouvez attribuer ces connaissances à Dieu ? C'est là le problème. Alors, selon nos différentes expériences, on aurait différentes questions. C'est erré la question « Mais Dieu a-t-il un corps ?» à « Dieu est-il infini ?» Vous voyez, et ce sont des interrogations qui sont censées nous habiter si on regarde la réalité qui nous entoure comme l'effet de la création. Vous voyez, l'effet me dit quelque chose de la cause. Donc à travers l'effet, qu'est-ce que je peux dire de la cause ? Alors, chose encore plus importante, et là c'est à mon avis chose qui est beaucoup plus difficile, c'est comprendre que l'effet particulier de la création, c'est l'effet le plus parfait, c'est l'homme. Donc dans la lumière de cet effet le plus parfait, je dois me poser la question, qu'est-ce que l'homme me dit de Dieu ? Sans automatiquement avoir cette réminiscence du livre de la Genèse, où Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais simplement dans mon expérimentation de la personne humaine. Qu'est-ce que la personne humaine peut me dire de Dieu ? Et il me semble que c'est dans la personne humaine que je découvre les plus grandes qualités de la création. Et c'est à partir de là, il me semble, bien qu'on peut le faire autrement, que cette voie d'éminence dont parle saint Thomas va jouer le plus. C'est-à-dire en comprenant que toutes les grandes qualités que je peux découvrir dans les effets de la création, je peux les attribuer à Dieu, mais d'une manière tout autre, d'une manière éminemment plus grande. Et je crois que la première question à se poser, c'est est-ce que Dieu est un vivant ? Et si c'est un vivant, de quelle vie vit-il? Puisque j'ai dit qu'en Dieu, tout devenir était exclu, apparemment la vie implique un devenir, donc Dieu ne peut pas être un vivant. Cependant, et je remarque que la vie spirituelle, d'une certaine manière, transcende le devenir, par l'amour et par la connaissance. Alors, est-ce que je peux attribuer à Dieu une vie qui soit une vie d'amour et une vie de connaissance? Vous voyez, ça me parle beaucoup plus personnellement de Dieu. C'est beaucoup moins négatif. L'aspect négatif, bon, on le comprend très rapidement, mais vous voyez, est-ce que par rapport au vivant parfait qu'est l'homme, je peux dire quelque chose de Dieu? Et si je peux dire quelque chose de Dieu, cette vie, quelle est-elle? Ben, je crois qu'on peut parler en Dieu d'une vie d'amour et d'une vie de connaissance. Cependant, oui, je dois purifier cette vie d'amour et cette vie de connaissance de toutes les imperfections qui sont liées au devenir de l'homme. Et que la première chose, c'est que l'amour de Dieu ne porte pas sur un autre, mais porte sur lui-même. Et même chose pour la connaissance. Et en comprenant que quand je parle d'amour et de connaissance, je n'introduis pas une division en Dieu. Pour Dieu, être, connaître et aimer, c'est la même chose. Cependant, mon intelligence, à travers ce regard analogique, donc ce regard de comparaison, si vous voulez, saisit plus personnellement ce qu'est Dieu. Plutôt ce qu'il n'est pas. Et ce qui serait intéressant à faire, c'est d'essayer de comprendre ce que peut représenter l'amour de Dieu, ce que peut représenter la connaissance de Dieu. Quand je parle d'amour, je parle d'attraction vers un bien qui est autre que moi. Est-ce que pour Dieu, quand il s'aime, il est attiré vers un bien qui est autre que lui? Mais tout de suite, j'implique une division en parlant de l'amour comme ça. Donc je dois comprendre que quand je parle de l'amour en Dieu, je parle d'un souverain bien qui se suffit lui-même. Et la même chose pour la connaissance. Tout mode de connaissance, au point de vue humain, implique un lien entre la réalité que je connais et la personne qui connaît, un lien d'intentionnalité. Donc ce lien d'intentionnalité qui implique une altération entre celui qui connaît et l'objet connu. Et bien en Dieu, il n'y a pas cette distinction. Dieu se connaît lui-même. Il se connaît par mode de contemplation. Oui, donc d'une certaine manière, je pourrais qualifier la vie de Dieu comme une vie d'amour parfaite, qui est une vie de contemplation. Et donc, c'est une vie spirituelle dans ce qu'elle a de plus qualitatif dans l'ordre humain. Alors vous comprenez qu'à partir de là, se pose une question théologique que je ne fais qu'aborder, c'est tout le problème de l'analogie en théologie. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Est-ce que ce n'est pas encore des anthropomorphismes? Est-ce que je ne dois pas simplement rester dans ce qu'on appelle, excusez-moi du terme barbare, mais une théologie apophatique? Ou est-ce que je peux me permettre d'avoir une théologie analogique? Vous voyez, ça c'est un problème théologique qui s'est soulevé au sujet des noms divins. De quel droit je peux donner un nom à Dieu? Alors quand on parle de théologie apophatique, c'est une théologie négative. Et la théologie apophatique, c'est la théologie qui met le primat de la négation. Je ne peux rien dire de Dieu, la seule chose que je puisse faire, c'est de nier. Voilà, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Mais par contre, je ne peux pas dire qu'il est vivant, qu'il est amour, qu'il est lumière. Seule la révélation pourra le dire. Mais au point de vue de l'intelligence, il y a une tendance théologique qui va y mettre le primat sur la négation. Et ça va soulever ce qu'on appelle comme problème théologique et l'analogie en théologie. Qu'est-ce qui fonde mon langage qui est commun entre ce que je suis et ce qu'est Dieu? Et bien ce qui fonde ça, c'est la compréhension que j'ai de la création et du lien que j'établis entre la création et le créateur. Et ça peut se comprendre que dans la lumière. Alors excusez-moi la petite difficulté, hein, mais là c'est pour que les frères comprennent, parce que je les vois sourciller alors. Et pour que ça peut se comprendre que dans la lumière de l'acte pur. Et simplement dans cette lumière, je comprends qu'au point de vue de l'être, je peux faire des analogies. Voilà, ça c'est un détail théologique. Mais alors vous comprenez bien que ce mode de connaissance ne fait pas toucher immédiatement Dieu. Je ne touche Dieu par là que par ses effets. Pourquoi ? Parce que c'est l'effort de l'intelligence, ayant une certaine compréhension de ce qu'est Dieu. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux avoir une connaissance immédiate de Dieu ? Et là, ça me permet de rentrer dans le second registre dont j'essayais de parler tout à l'heure, c'est le point de vue de la révélation. En comprenant que par la révélation, j'ai un lien immédiat avec Dieu qui se révèle à moi. Et en comprenant que par la révélation, je vais beaucoup plus loin dans ma connaissance de Dieu. Ma connaissance de Dieu n'est pas simplement selon une causalité qui fait que je découvre Dieu comme le Créateur, n'est pas simplement selon une négation qui fait que je rejette toutes mes imperfections pour ne pas les appliquer à Dieu, n'est pas simplement selon une éminence où j'attribue toutes les qualités que je peux découvrir dans le monde physique. Mais c'est beaucoup plus, c'est je découvre ce que Dieu me dit de lui-même. Donc vous comprenez bien, je n'ai pas simplement le regard de l'homme sur Dieu, j'ai le regard de Dieu sur lui-même. Et ça, c'est la nouveauté de la révélation. C'est pour ça que la révélation va beaucoup plus loin. Ça me permet de connaître le regard que Dieu a de lui-même. Et donc de connaître ce qui m'était caché dès l'origine. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment avoir cette connaissance que Dieu a de lui-même ? Eh bien, le seul moyen, c'est le Christ. Et cette affirmation si forte du Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est lui qui nous conduit vers ce regard. C'est lui qui nous conduit vers Dieu. Vous voyez, c'est important d'avoir cette disposition d'esprit avant de regarder ce que dit l'Écriture de Dieu. Pourquoi ? Parce que sinon, je risque de dire à la fin, bon, ben, c'est très descriptif, surtout quand on fait de la philosophie et de la théologie depuis longtemps, et on a une certaine capacité d'analyse. Et c'est vrai que l'analyse essaie de dépasser la description pour découvrir une source. Et si j'aborde simplement l'écriture comme un aspect descriptif, voilà ce qui m'est dit, ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, je vous renverrai, vous savez, il y a des articles, il y en a des quantités dans tous les dictionnaires, je vous renverrai au dictionnaire de théologie biblique, et vous regarderez l'article Dieu. Puis vous regarderez ce que dit l'écriture de Dieu. Mais ça, c'est documentaire. Mais ce n'est pas théologique. Ou sinon, vous regarderez le dictionnaire de théologie catholique, à l'article Dieu et ce que dit et le point de vue scripturaire. Ça, c'est documentaire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la théologie biblique, ce n'est pas documentaire. Et souvent, on confond la théologie biblique avec l'aspect documentaire. Voilà, c'est descriptif, donc ce n'est pas intéressant. Et bien, je crois que ce n'est pas juste de dire ça. C'est beaucoup plus que quelque chose de descriptif. C'est sûr que si je le regarde de l'extérieur, c'est descriptif. Mais si je le regarde comme celui qui reçoit cette révélation, comme venant de Dieu, c'est plus du tout descriptif, parce que c'est le pain qui me nourrit. Ce que dit le psaume. Ta parole est la lampe de ma route. Et voyez, dans l'ordre de cette connaissance biblique de Dieu, ça demande un engagement plus fort de notre part. Comprendre qu'on ne peut pas simplement regarder comme le journaliste. Mais le journaliste qui a ses fiches et qui sortirait sa fiche, dans les sourates du Coran c'est comme ça, dans la Bible c'est comme ça, et ainsi de suite. C'est une connaissance de l'intérieur. Alors c'est ça qu'il faut essayer de découvrir. Et donc ça doit me parler. Ça doit me faire vivre. Vous comprenez bien, si la nourriture de ma vie c'est la parole de Dieu, et si je lis la parole de Dieu puis je dis c'est extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ce qui doit me faire vivre au plus haut point. D'où la nécessité de se mettre à l'écoute de cette parole pour découvrir ce qu'elle me dit de Dieu. Et en même temps, vous y trouverez un très grand avantage, c'est que quand Dieu dit à l'homme ce qu'il est, il révèle à l'homme aussi ce que l'homme est. Ça, c'est très important comme principe. D'une manière ultime, vous voyez, il révèle d'où l'homme vient et où l'homme va. Et à partir de là, il lui dit ce qu'il est. On voit ça au début de la Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc en comprenant que ce n'est pas du tout étranger pour nous, cette approche biblique. Ça me concerne immédiatement. Alors il y aurait deux manières de procéder. Soit on partirait du Christ et on regarderait comment le Christ est la réalisation de l'ancienne alliance et comment le Christ est la réalisation de la sainteté de Dieu, par exemple. Comment le Christ est la réalisation de la majesté de Dieu. Comment le Christ est la réalisation de la miséricorde de Dieu. Comment le Christ est la réalisation de la toute-puissance de Dieu. Comment le Christ est la réalisation de la douceur de Dieu. Comment il est la réalisation de la lumière, de l'amour, de la vie de Dieu. Mais je crois que ce serait le chemin qui nous serait le plus connaturel. Parce que ce qui nous est immédiat, c'est le Christ. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui nous est immédiat. C'est d'abord le Christ. Et c'est par le Christ que nous découvrons que l'Écriture, dite l'Ancien Testament, est ancien parce que, oui, il y a le nouveau, c'est dans la lumière du nouveau que je découvre l'ancien. Et c'est ce qui aurait beaucoup plus immédiat. Mais c'est tellement immédiat que ça, je vous le laisse faire tout seul. Alors pour ça, je vous donne quelques pistes. Et je vous invite à réfléchir sur la manière dont le Christ se manifeste. La première chose, c'est que le Christ est manifestation de la gloire de Dieu. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Donc je dois lire toute la vie du Christ comme manifestation de la gloire de Dieu. Et on comprenait que cette manifestation, elle est déroutante pour l'intelligence humaine. Parce que cette manifestation, elle commence dans la pauvreté de Bethléem. Et elle s'achève dans une pauvreté encore beaucoup plus grande, c'est la pauvreté de la croix. Cependant, elle implique des moments qui sont les moments de lumière dans l'ordre de la manifestation visible. C'est la prosternation des mages. C'est le baptême du Christ, quand Dieu se manifeste pour accréditer aux yeux d'Israël son Fils. Et c'est le moment de la transfiguration. Et d'une manière beaucoup plus cachée, le moment de la résurrection. Vous voyez, ça me semble essentiel. Et on a besoin de le faire, ça. On a besoin du fait de la présence du Christ en nous, de dire, mais Seigneur, qui es-tu? On n'a pas le droit de rester dans une sorte de sentiment vague, au sujet de la personne du Christ. Et ce qu'il est, il me manifeste la gloire de Dieu. Donc il me manifeste ce qu'est Dieu. Ça, je crois que c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans la lumière de tous les attributs qu'on va découvrir dans l'Ancien Testament, regardez comment le Christ me manifeste ses attributs. Et je crois que les deux capitaux, c'est ce que me dit Saint Jean dans sa première épître, c'est Dieu est amour et Dieu est lumière. Donc de quelle manière, comme nous dit l'évangile de Saint Jean, la vie du Christ est en signe de l'œuvre qu'il est venu faire, apporter le salut aux hommes. De quelle manière la vie du Christ me manifeste la lumière et l'amour de Dieu? Et c'est ça qui est intéressant de faire. Donc comprendre à travers toute la vie du Christ la manifestation de la lumière. Pensez au chapitre 8 dans l'évangile de Saint Jean. Oui, quand le Christ témoigne de lui-même, « Je suis la vérité ». Pensez à tous les signes qui ponctuent l'évangile de Saint Jean. Pensez aussi à l'évangile de Saint Marc. La manière dont Saint Marc veut manifester à travers la vie du Christ ce qu'il dit au début de son évangile, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et la même chose pour Saint Luc et Saint Matthieu. Oui, c'est important d'avoir ce regard parce que c'est ce qui nous permet d'approcher la Bible, d'approcher surtout l'évangile, d'une manière plus vitale pour notre foi. Oui, il y aurait aussi à regarder comment le Christ manifeste la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui est un geste par rapport à une personne. On voit ça dans le livre de l'Exode. Hein. C'est « J'ai vu mon peuple, j'ai pris pitié de lui ». Ça, c'est la première manifestation de la miséricorde. Et bien, comment le Christ, dans sa vie, manifeste la miséricorde de Dieu? C'est qu'il prend l'homme dans son péché pour le conduire vers la vie éternelle. Et donc, je dois être attentif, hein, à la manière dont le Seigneur fait. Et ça, c'est indispensable pour connaître le Christ d'une manière personnelle. Ou sinon, ça reste, vous voyez, ça reste très académique, très universitaire. Voilà, je sais réciter un livre. Mais cependant, dans l'ordre de la vie avec le Christ, qu'est-ce que le Christ me manifeste de Dieu? Alors, il y a aussi à comprendre, vous voyez, de quelle manière le Christ me manifeste la justice de Dieu. De quelle manière il me manifeste la sainteté de Dieu. Et il faudrait reprendre tous les attributs qui me sont donnés dans l'Écriture. De quelle manière il me manifeste que Dieu est vivant. Vous voyez le mystère de la résurrection. Mais c'est ce qui est dit dans le livre des Juges. Je suis Yahvé, le vivant. Et bien de quelle manière le Christ il manifeste ce Dieu vivant. Ce Dieu vivant qui est proclamé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je vous donne ces petites pistes pour que vous puissiez chercher. Parce qu'on m'a dit, oui, on m'a dit, mais qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Eh bien, voilà ce qui sort, c'est une attention plus grande par rapport au mystère du Christ en tant qu'il est la révélation de Dieu. Et dites-vous bien, c'est le seul chemin. Vous voyez, on l'entend souvent, du moins, quant à nous, frères et sœurs, et cette phrase de Thérèse d'Avila, qui dit on ne doit pas quitter l'humanité sainte du Christ, parce que si on quitte l'humanité sainte du Christ, d'une certaine manière, on se sépare de Dieu. Eh bien, il y a quelque chose pour notre vie concrète. On ne peut pas se séparer du Christ comme révélation du Père, donc comme révélation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ou sinon, je me sépare de Dieu. Ma connaissance de Dieu devient abstraite. Et ce n'est plus une connaissance vitale, celle qui est liée à un amour. Alors je vous invite à ça, à travailler tous ces attributs. Oui, ils sont très nombreux. Hein. Alors il faut déjà distinguer, vous voyez, ce que Dieu dit de lui-même, puis ce que l'homme dit de Dieu. Ça aussi, c'est important. Alors, chose aussi encore plus importante, du moins pas plus importante, mais différente, pardon, c'est comprendre comment l'Ancien Testament dans son devenir, me manifeste qui est Dieu. Et vous comprenez que avant d'avoir ce regard, il faut avoir le premier regard quant au Christ. Parce que simplement dans la lumière du nouveau, je comprendrai l'ancien. Ou sinon l'ancien ne serait pas qualifié d'ancien. Oui, l'écriture, ce qu'on appellerait le canon juif des Septante, donc de la traduction de la diaspora, n'a eu une autorité pour moi que dans la lumière du mystère du Christ. Et pas en tant que tel. Donc c'est pour ça que ça présuppose d'avoir, oui, un regard qu'on pourrait qualifier de christocentrique, en tant que le Christ est le centre de la révélation. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Après nous avoir parlé jadis par des prophètes, Dieu en ces temps qui sont les derniers, donc ça montre bien l'aspect ultime, Dieu nous a parlé par son Fils. Et il nous parle par son Fils pour nous dire ce qu'il est lui. Alors, vous voyez, l'intérêt d'une lecture de la révélation dans l'Ancien Testament, c'est que, tout en étant révélation, c'est que l'Ancien Testament épouse des traditions religieuses. Et donc, ça me permet un contact avec toutes les traditions religieuses qui m'entourent. Donc, ça me permet d'avoir une certaine compréhension du point de vue de Dieu, juste de ce que sont des traditions religieuses et jusqu'où elles vont. Oui, pensez à la tradition de l'islam. Eh bien, il faut essayer de comprendre jusqu'où elle va, non pas dans mon regard à moi, mais dans le regard de Dieu. Jusqu'où manifeste-t-elle le regard que Dieu a de lui-même? Et c'est pour ça qu'il y a un double intérêt. Et d'une certaine manière, ça me permet de jauger. Parce que vous voyez, tout de suite, hein, quand je lis à la suite les livres de l'Ancien Testament, je vois que Dieu est éducateur, il éduque l'homme. Il ne commence pas par dire « Oui, je suis Père, Fils et Saint-Esprit, je suis lumière et je suis amour. » Il commence à se manifester comme le Créateur. Et après, il se manifeste comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc d'une manière beaucoup plus personnelle. Donc il y a une éducation de Dieu dans cette révélation. Et cette éducation me permet de voir le devenir que Dieu me donne de lui-même. Et donc à partir de là, ça me permet d'avoir le regard qu'il a sur lui-même en tant que ce regard permet d'éduquer l'homme. Donc à partir de là, me permet de regarder les traditions religieuses. Et très souvent, je pense que vous ne verrez jamais une tradition religieuse qui parle de l'amour de Dieu ou qui parle de Dieu-lumière. Oui, l'aspect ultime, vous ne le voyez pas. Cependant, l'aspect premier, on le voit très souvent, c'est l'aspect du Dieu créateur. Et ce Dieu créateur se manifeste à l'homme comme la majesté souveraine. Et vous voyez que ça, c'est commun à toutes les traditions religieuses. Je dis bien tradition religieuse, hein, pas, je ne parle pas des philosophies indiennes, c'est différent. Et donc, par là, je peux avoir le regard de Dieu sur ce qu'est une tradition religieuse, sur sa limite. Et en comprenant l'aspect vrai de cette tradition. Il ne faut pas dire que c'est une tradition religieuse, donc c'est à rejeter. Je dois comprendre jusqu'où Dieu se donne. Jusqu'où l'homme reçoit Dieu. Dans la lumière du regard de Dieu. Et non pas dans ma lumière. Alors, voyez, ce devenir de cette révélation de Dieu, je crois qu'il a deux sommets. Le premier sommet, c'est le nom de Dieu. Dieu se nomme. Il se nomme en référence à des hommes. Et ça, c'est très important. Il ne se nomme pas d'abord en référence à lui-même, si vous êtes attentif à l'Écriture. Il se nomme en référence à des hommes. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et seulement après, il se nomme en fonction de ce qu'il est. Je suis celui qui suis. Yahweh. Et ça, je crois que c'est un des grands moments de la révélation. Le nom de Dieu. Et il ne faut pas comprendre le nom comme nous on le comprend, comme des bons occidentaux. Il faut le comprendre comme, vous voyez, la signification du nom dans le monde hébraïque. Le nom est égal à la personne dans le monde juif. Le nom, c'est, vous voyez, a une adéquation très forte avec la personne. Il n'y a pas de séparation entre, vous voyez, l'aspect conventionnel du nom qu'on découvre aujourd'hui. Moi, je m'appelle Arthur. Et ce que je suis. Il y a un lien beaucoup plus fort entre la personne et le nom qu'elle porte. Vous voyez, ça manifeste une chose, c'est qu'il y a un bout. Vous voyez, Dieu, pour se révéler à l'homme, insiste sur le fait qu'il a un lien avec l'homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'il se nomme en premier lieu. Et ça, ça manifeste l'immanence de Dieu. C'est Dieu n'est pas simplement le transcendant. Et la deuxième chose, c'est « je suis celui qui est » manifeste le tout autre. Même s'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cependant, il est le tout autre. Et ça, ça demeure avec le Christ. L'incarnation ne supprime pas ça. L'incarnation ne supprime pas le tout autre. Ça, je crois que c'est le premier moment, le plus important. Et le deuxième moment, c'est l'incarnation. En tant que dans l'incarnation, cette révélation va jusqu'à épouser ce qu'est l'homme. C'est cette affirmation du prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Et là, on a une communication qui ne peut pas aller plus loin. Parce que c'est Dieu lui-même qui se communique. Alors l'important maintenant, c'est de comprendre, vous voyez, comment Dieu éduque à découvrir le nom de Dieu. Et comment Dieu nous éduque à recevoir le don de l'incarnation, qui est le don de lui-même. Et en comprenant que l'incarnation est liée au point de départ. Et toute l'économie de Dieu, donc tout le devenir de la révélation, elle est liée à cette manifestation dans le Christ. Et c'est très frappant, si vous êtes attentif à l'écriture, que le premier et le dernier livre de l'Écriture, la Genèse et l'Apocalypse, qualifient Dieu de la même manière. Par la création, Dieu est le maître souverain. Et l'Apocalypse qualifie Dieu Seigneur et maître de tout. Cependant, ce Seigneur et ce maître de tout, dans la Genèse, il est le tout autre qui est pour l'instant l'inconnu. Et dans l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. Donc vous comprenez bien que du point de départ jusqu'à la fin, c'est pour manifester dans le Christ ce qu'est ce maître souverain. Et toute l'économie divine est pour manifester ça. Et c'est très important parce que, vous voyez, à partir de là, toute l'écriture me parle du Christ. Toute l'écriture. Parce que toute l'écriture me manifeste l'intention que Dieu a en se révélant. Alors maintenant, si on essaie de regarder un petit peu le chemin qui est pris. Je crois que ce chemin, la première chose, c'est à travers la création, d'une certaine manière, Dieu dit ce qu'il est. Et souvent, la manière dont l'homme reçoit Dieu dans la création, il le reçoit à travers la toute-puissance. Parce qu'à partir de rien, il a fait l'univers. Et que cette création, elle implique de la part de l'homme une obéissance à Dieu. Comme la création obéit à Dieu, toute la création obéit à Dieu, en tant que la création tend vers la fin que Dieu lui a assignée. On voit ça d'une manière artistique hein, dans l'œuvre des six jours. Oui, la fin assignée au soleil, à la lune. Mais de la même manière, l'homme a une finalité que Dieu lui donne. Alors pour l'instant, je ne précise pas. Mais en tant que la création, ce n'est pas simplement, vous voyez, Dieu qui fait quelque chose et après il s'en désintéresse. C'est Dieu qui fait quelque chose pour établir un lien entre lui et son œuvre. Alors la question, c'est à travers l'Écriture, il faudra préciser quel est ce lien. Et ce premier lien, c'est de découvrir ce qu'est Dieu, en tant qu'il est source de ce que je suis. Et ça réclame de la part de l'homme une attitude d'adoration. Donc une attitude de reconnaissance par rapport à la souveraineté de Dieu. En tant qu'il est celui qui, à partir de rien, a fait l'univers. Et chose très importante, c'est de voir que la révélation de Dieu, elle tient compte de l'homme. Et ça, c'est très, très, très important. Comprenons, ce n'est pas simplement Dieu qui est dans une vitrine, vous savez, comme dans les modes, et puis il change de visage, puis voilà. Il tient compte de l'homme. Et la manière dont ça nous est manifesté, c'est par le refus de l'homme d'avoir un lien avec Dieu. En comprenant que cette manifestation de la personne de Dieu, elle implique de la part de l'homme un refus. Et ce refus, c'est le péché. Ce péché qui offense la majesté de Dieu, puisque par ce péché, l'homme veut se mettre à la place de Dieu. Donc qui ne reconnaît plus ce qu'est Dieu. Et à partir de là, il se sépare du lien qu'il a avec Dieu. Un lien qui était de créateur à créature. Et chose très importante, et c'est là où on a besoin d'une compréhension assez nette, c'est voir que le péché, il n'est pas regardé en lui-même. Ce refus, il n'est pas regardé en lui-même. Ce refus, il implique de la part de Dieu une réponse. Et ça, c'est très très important, surtout dans notre économie personnelle. Et dans notre devenir personnel, c'est que le péché, il n'est pas regardé en lui-même dans la révélation. C'est que le péché, il appelle une réponse de Dieu. Et ce qui est très frappant, c'est que la réponse de Dieu que l'homme a imaginée, c'est laquelle ? C'est la peur de Dieu. On voit ça, hein ? Ils se cachèrent, ils entendirent Dieu, ils prirent peur de Dieu. Vous voyez, ça, c'est la répercussion que l'homme a imaginée. Ce n'est pas du tout ce que Dieu réalise. Et ce que Dieu réalise par rapport au péché, c'est une nouvelle alliance. Et à partir de là, il m'est manifesté que Dieu est le Dieu de l'alliance. Et pas simplement le Dieu créateur qui est simplement le transcendant. Vous voyez, le point de vue de la transcendance. C'est Dieu demande de réaliser une immanence avec l'homme. Je dis bien avec l'homme. Et la première fois où m'est manifesté ce Dieu de l'Alliance, c'est avec Noé. Et le signe de l'Alliance, c'est ce fameux arc-en-ciel. Il pourrait presque y en avoir un aujourd'hui, comme il y a et des nuages et du soleil, mais il ne pleut pas. Et chose très importante, que cette alliance manifeste que Dieu demande à l'homme d'avoir un lien vital avec lui. Et ce lien vital, il va se manifester avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il va se manifester avec Moïse, avec les juges, avec les rois et avec les prophètes. Et d'une manière ultime, il se manifestera avec le Christ. Et vous comprenez bien que quand Dieu se manifeste à l'homme, son désir, c'est de réaliser une alliance avec lui. Or, cette alliance, quelle est-elle? Cette alliance, c'est de recevoir, dans l'obéissance de la foi, ce que Dieu dit de lui-même. Et dans ce que Dieu dit de lui-même, trouver la nourriture de l'homme. On voit ça principalement avec la vocation d'Abraham. On voit ça avec le don de la loi. Et on voit ça avec le don des prophètes. La manière dont Abraham découvre à travers l'obéissance à la parole de Dieu, cette fécondité qu'au point de vue humain, il a complètement perdue. Vous comprenez bien, Dieu lui annonce à 75 ans qu'il aura un enfant, et à 90 ans, il lui repose la question. Alors vous comprenez que Sarah, elle a pu rigoler. Et la même chose, à travers la loi, Dieu oriente dans son agir pratique l'homme en vue que l'homme puisse tendre vers lui. Et la même chose dans les prophètes, oui, Dieu rappelle à l'homme que ben, la loi, c'est avant tout un esprit d'amour et pas simplement un esprit formel. Donc vous comprenez bien, du côté de Dieu, il y a toujours le souci quand il se manifeste de s'unir à l'homme. Ça, c'est très important. Et ce souci plénier, cette alliance plénière, c'est le mystère de l'incarnation. Le mystère du Verbe fait chair. Et dans cette alliance, à partir de cette alliance, Dieu va manifester ses qualités personnelles, c'est-à-dire ses attributs, ce qu'il est. Et sa première qualité personnelle, c'est que cette alliance, c'est une alliance qui se fait dans la miséricorde. Vous voyez, je vous renvoie au chapitre 3 de l'épître de, pardon, au chapitre 3 de l'Exode, où Dieu voit la misère de son peuple et il décide de le délivrer. Et vous voyez, cette alliance me manifeste cette qualité particulière de Dieu. Dieu est miséricordieux. Donc Dieu s'engage quant à l'homme. Et la même chose, vous voyez, cette alliance me manifeste tous les autres attributs. Alors que je vous renvoie puisqu'on n'a pas le temps de terminer. Mais manifeste sa fidélité. Contrairement à l'homme, Dieu, lui, est fidèle. Et cette fidélité, elle implique une chose très curieuse, c'est que dans cette fidélité, Dieu est jaloux. Il est tellement jaloux qu'il proclame « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Il n'est pas jaloux quant à l'homme. Il est jaloux quand l'homme se tourne vers un Dieu qui n'existe pas. Donc il est jaloux quand l'homme ne se tourne pas vers lui. Et il y aura aussi à regarder dans l'Écriture hein, comment cette alliance manifeste et la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Et la lumière de Dieu et l'amour de Dieu. Mais vous voyez, c'est très important de prendre, c'est ce qui me semble, hein, mais de prendre sous l'angle de l'alliance les qualités de Dieu, parce que sous l'angle de l'alliance, ça m'engage. Et donc, je ne peux pas simplement regarder, vous voyez, comme un journaliste. Parce que sous l'angle de l'alliance, c'est une alliance qu'il réalise avec moi. Donc, c'est une manifestation qu'il veut faire dans ma vie. Donc, ce sont des qualités que moi-même, je vais découvrir, de l'intérieur.
Bien, l'homme est capable de la station inverse, j'allais dire, il est capable de la prostration volontaire, qui est, vous voyez, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal, si vous regardez ça de façon qualitative, par
Alors après ce travail sur Dieu, on va aborder le problème de la création. Dans un premier temps, on va essayer de voir les différents regards qu'on peut avoir sur la création. Et on se demandera quel est celui qu'on doit avoir comme croyant. Puis ensuite, on essayera de le développer. Je crois que la première chose importante à souligner, c'est le fait que le problème de la création est, depuis plusieurs années, maintenant depuis presque une dizaine d'années, presque sorti de la réflexion théologique. Le thème de la création demeure présent dans la théologie.
Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau, parce que la peau est... Alors comme telle, si vous voulez, elle ne présente pas de...
Par l'intelligence croyante, le mystère de la création. On le considère presque comme un donné qu'il n'est pas nécessaire ou qu'il est trop difficile d'approcher réellement. Et c'est intéressant parce que simultanément, on voit chez les scientifiques réapparaître le problème de la création. Après, un optimisme scientifique ou scientiste, pendant tout un certain temps, où on a cru résoudre le problème de la création, ce qui montre bien d'ailleurs que la science s'est toujours posée le problème de la création. C'est-à-dire la science s'est toujours développée sur l'arrière-fond du problème de la création. On voit réapparaître le problème de la création chez les scientifiques. On essaiera de voir tout à l'heure comment... ou positivement ou négativement, mais que ce soit des gens comme Hubert Reeves, que ce soit des gens comme le mathématicien qui s'appelle Hubert Hawkins, que ce soit les biologistes, comme le professeur Jean Bernard, on voit réapparaître le problème de la création. Et puis il y a un troisième mouvement, qui est au fond la dissolution définitive du problème de la création, dans la gnose, enfin dans ce qu'on appelle la néognose, dans la réapparition de la gnose, dans des phénomènes comme le Nouvel Âge, ou dans tout ce qui regarde les spiritualités orientales. Puisque en Orient, le thème de la création est considéré comme résolu. Il n'y a pas de création. Il y a un rapport à l'absolu et au divin qui n'est pas un rapport de créer à incréer. Et c'est un des grands thèmes de la gnose, d'une certaine manière de refuser la distinction entre le créé et l'incréé. Et on le voit réapparaître. Donc ça, si vous voulez, c'est le fond sur lequel on a à poser la question de la création. Et je dirais l'avantage
de la question de la création posée par les scientifiques et de la négation de la création par les gnoses et les nouvelles gnoses nous oblige précisément à avoir un regard beaucoup plus précis, on va le voir, sur le problème de la création et de distinguer les différentes manières de le regarder. La première manière, c'est la manière scientifique. Je pense ici aux sciences positives, pas aux sciences humaines, parce que les sciences humaines ne s'intéressent pas à la création, si ce n'est dans l'imaginaire humain. Je crois que c'est très important de réclamer du scientifique d'être rigoureux quand il parle de la création. C'est-à-dire, en fait, de ne pas en parler. Pourquoi ? Parce que le scientifique aboutit au problème de la création, et la question est de savoir, est-ce qu'il y aboutit comme scientifique ou est-ce qu'il y aboutit comme être humain ? Oui. Est-ce qu'il y aboutit dans la ligne de son interrogation scientifique, ou bien est-ce qu'il sort de sa science quand il se pose au problème de la création ? Il faut voir que le problème, donc, il y a deux domaines dans lesquels le problème de la création apparaît, c'est dans le domaine de l'astrophysique et dans le domaine de la biologie. Dans les autres aussi, hein, mais c'est surtout ces deux-là. Dans le domaine de l'astrophysique, le problème de la création apparaît comme celui du premier moment de l'univers. On se pose la question du comment l'univers est-il apparu ? Oui, c'est le problème du comment, de l'apparition de l'univers. Et le problème du premier moment de l'univers. Donc c'est en essayant de remonter, non pas au premier moment de l'univers, parce que c'est trop tard, mais de remonter aux conditions de possibilité astrophysique de l'apparition de l'univers, de l'apparition plus exactement du monde matériel. Donc, c'est très important de voir que d'être très précis. Le scientifique ne peut rien dire sur le premier moment de l'univers, ça n'a pas de sens. Au sens strict, il travaille sur les conditions de possibilité. Donc il essaye, en fonction de sa connaissance de la matière, de dire il n'est pas possible que la matière apparaisse sans un certain nombre de conditions. D'accord ? La matière ne peut pas exister sans un certain nombre de conditions. Qui sont inséparables d'ailleurs de la constitution de la matière. Ces conditions de possibilité, ce n'est pas les conditions de possibilité tout court, c'est des conditions de possibilité astrophysiques. Ça veut dire que uniquement à travers la science sous laquelle on l'aborde. Les conditions de possibilité de l'apparition de la vie, on va le voir en biologie, ne sont pas du tout les mêmes que les conditions d'apparition de la matière en astrophysique. Donc, vous voyez, c'est pour bien voir le regard exactement précis du scientifique. Et ce n'est pas l'univers, c'est le monde matériel. Parce que dans l'univers, il n'y a pas que des réalités matérielles. Il n'y a pas nécessairement que des réalités matérielles. Vous voyez, c'est important de préciser. Donc, on ne remonte pas au premier moment de l'univers, on énonce les conditions de possibilité de l'apparition de la matière. Et d'une certaine manière, le problème de la création, d'ailleurs les scientifiques le reconnaissent, il est au-delà, il est de l'autre côté. Même si on arrivait au premier moment de l'univers, la création c'est avant. Oui, ça, on est déjà dans la création là. Et comme on n'arrive pas au premier moment de l'univers, ça n'a rien à voir avec la création. Vous voyez, ça n'est que, si on est rigoureux, et je crois que les scientifiques qui le sont le comprennent parfaitement, si on est rigoureux, le problème de l'apparition de la matière pose une question à l'homme. Qui imaginativement, et je dis bien imaginativement, est proche du problème de l'origine de l'univers. Et donc il en conclut qu'il rejoint le problème de la création. Ce qui au sens strict n'est pas du tout juste. Vous voyez, les conditions de possibilité, ce n'est pas la même chose que le commencement de l'univers. Alors que c'est très vrai que pour le scientifique, il projette, et c'est là que c'est une hypothèse, hein. Ça, là-dessus, on a des choses scientifiques sur les conditions de possibilité. Par contre, quand on se met à parler du premier moment de l'univers, on est dans les hypothèses. Ou dans la théorie. On n'est même plus tout à fait dans la théorie. On est dans une métathéorie. C'est-à-dire qu'on n'est déjà plus dans une théorie scientifique. On est dans une théorie qui s'appelle une cosmogénèse. Ça veut dire qu'on essaye à partir de la science, de se représenter ce qu'a été l'apparition de l'univers. Vous voyez, je crois que c'est important de voir toutes les distances qu'il y a entre les données scientifiques, les hypothèses astrophysiques et les hypothèses de cosmogénèse et le problème de la création. Vous voyez, on est très très loin, en fait, du problème de la création. Alors, ce qui est très vrai, c'est que l'astrophysique fait réfléchir l'homme sur la cosmogénèse. La cosmogénèse, ça veut dire le devenir de l'univers. Et c'est vrai que la science oblige l'homme à s'interroger sur... Enfin, de manière nouvelle, il s'est toujours interrogé dessus. Mais la science y oblige de manière plus rigoureuse à s'interroger sur le devenir de l'univers. Et la science lui fournit comme un modèle fondamental. Et précisément, l'hypothèse de la cosmogénèse, c'est se servir d'un modèle scientifique pour parler de quelque chose qui n'est pas scientifique. Vous voyez, donc au sens strict, on sort du domaine scientifique. Et un bon scientifique vous dira, on rentre dans la philosophie. Et un philosophe vous dira, on n'est pas du tout dans la philosophie. Donc c'est important de voir qu'on est dans l'ordre de l'hypothèse. J'irais presque d'une hypothèse humaine. Qui a comme fondement d'interrogation la science. Si vous voulez, d'une hypothèse qui est provoquée par la science. Ou si vous voulez, d'une certaine manière, on passe du comment au qui. On se demande qui a fait l'univers. Et il n'y a pas de raison de passer de comment à qui. Comment marche votre vélo, c'est une autre question de savoir que qui l'a fabriqué. Il y a un lien, mais c'est un lien qui n'est pas de nécessité. C'est un lien que moi je fais. Alors, c'est la même chose pour la biologie. Qui ne travaille pas sur le premier moment de l'univers, mais sur le premier moment de la vie. Et puis les premiers moments de l'homme. En gros, c'est ça les deux problèmes. Mais c'est la même chose. La biologie, elle me donne les conditions de possibilité d'apparition biologique du vivant. Et du vivant matériel. C'est-à-dire que, au sens strict, le biologiste ne peut rien me dire de l'apparition de l'homme. Il ne peut même pas me parler simplement des conditions de possibilité biologique d'apparition de l'homme. Il doit me parler des conditions de possibilité d'apparition du phénomène biologique humain. Vous voyez, pour être rigoureux. Parce que l'homme, le biologiste, ne l'aborde par définition que biologiquement. Or, il n'est pas évident que l'homme ne soit que biologique. Vous voyez, toujours le même problème. Bien sûr qu'on est biologique, mais est-ce qu'on est que biologique? Ça, j'en sais rien, c'est une question que le biologiste ne peut pas résoudre. Vous voyez, donc je ne peux pas réduire l'homme à la biologie humaine. Et le biologiste ne me parle que de l'apparition de la dimension biologique de l'homme. Alors je ne peux pas les séparer, bien sûr, hein, mais c'est, si vous voulez, pour avoir un regard très précis. Et donc je crois que ce qui est important, c'est de souligner comment le scientifique comme personne humaine pose la question à la communauté humaine, et pas d'abord à la communauté scientifique, pose la question du premier moment de l'univers, du premier moment de la vie et du premier moment de l'homme. Et il la pose provoquée par sa science, mais en sortant. Ça lève beaucoup d'équivoques, hein, déjà, rien que ça. Et donc, il ne faut pas que je prenne le Big Bang, que je me le représente imaginativement en me disant « ça y est, je contemple le début de l'univers ». Vous voyez, parce qu'on vous décrit, il y a des livres comme ça, alors c'est les premières secondes de l'univers. Alors on vous décrit la masse de matière informe, très très dense, qui tout d'un coup explose. C'est plus beau que 2001, Odyssée de l'espace. Mais c'est pas plus réel. Comme la première apparition de l'homme, alors vous avez la petite cellule qui après ça s'agglomère, et puis ça vous donne un petit machin qui sort de l'eau et tout ça. C'est, vous savez les dessins qu'il y a chez les enfants en classe, là, où on voit l'homme qui passe du poisson au singe et tout ça, c'est complètement imaginatif. Scientifiquement, il y a des cassures tout le temps et qui sont actuellement infranchissables. Enfin, c'est la même chose pour la théorie de l'évolution. Le problème de l'évolution humaine et de l'évolution du vivant, c'est un réel problème. Mais la théorie de l'évolution, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et elle est, Dixit, un scientifique très astucieux qui montre qu'au fond, elle n'est satisfaisante que parce qu'il n'y en a aucune d'autre. On n'a aucune autre théorie que la théorie de l'évolution. à moins d'avoir une théorie créationniste un peu tout aussi imaginative et un peu simpliste. Et de croire que les animaux sont tous sortis exactement comme ils sont, de la main de Dieu au commencement du monde. Oui, mais c'est pour vous montrer que c'est pas simple, parce qu'on n'a qu'une théorie qui correspond aux éléments scientifiques, mais qui est une théorie qui n'est pas du tout scientifique. Vous avez le temps de lire, le livre d'un des derniers darwiniens français qui s'appelle Le traité du vivant, Monsieur Ruffier. Et alors c'est très impressionnant parce que tous les moments délicats, c'est entre les chapitres. C'est-à-dire que le passage de la matière à la vie, c'est entre deux chapitres. Le passage de la vie à l'homme, c'est entre deux chapitres. Alors avant, on vous montre, on vous dit que ça va être évident, et après, on vous a dit que ça a été évident. Enfin, j'exagère à peine, hein. J'exagère à peine, mais si vous regardez sérieusement, le problème même, qui est celui précisément du saut qualitatif, il est évité. Parce qu'il fait partie de la théorie, mais on n'a aucune vérification. Hein, on n'a jamais vu encore d'espèce devenir, donner naissance à une autre espèce. Au sens scientifique du terme. On a vu des espèces se modifier à l'intérieur de la même espèce, mais on n'a jamais vu d'espèce engendrer définitivement et irréversiblement une autre espèce. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça sera gênant si on en trouve une. Hein. Mais c'est pour vous dire que pour l'instant, il faut faire la mesure entre les données scientifiques et l'hypothèse, qui n'est pas nécessairement fausse parce qu'on n'a pas encore de vérification. Donc ça, c'est le premier regard scientifique. Alors, les gens les plus lucides là-dessus, c'est les mathématiciens, bizarrement. Parce que les mathématiciens sont ceux qui sont d'une certaine manière gardiens de la rigueur scientifique à l'intérieur des sciences positives. Un mathématicien perçoit extrêmement bien le degré d'abstraction mathématique dont on se sert pour résoudre des problèmes comme ça. Parce que c'est des problèmes mathématiques, ça. L'astrophysique, c'est essentiellement des problèmes mathématiques. Et ensuite, on vous met, c'est très étonnant, on vous met des petits dessins, des petites légendes dans les livres de vulgarisation, comme si ça correspondait au texte, mais ça n'a rien à voir. Le problème du trou noir, par exemple, on vous met un bel espace avec un grand trou noir au milieu. Le problème du trou noir, c'est un problème essentiellement mathématique, qui est très difficile d'ailleurs à résoudre mathématiquement, qui est né à partir d'un problème physique. Et vous voyez, la résolution du trou noir, c'est pas de regarder encore mieux qu'avant pour essayer, avec une grosse lunette, de voir ce qu'il y a dedans. Non mais vous voyez, parce que je dis ça parce qu'on a un imaginaire mythologique scientifique qui est très très chargé. On s'imagine qu'aujourd'hui un télescope, ça consiste à regarder de plus en plus gros pour voir de mieux en mieux. Pas du tout, ça consiste à avoir de plus en plus d'informations pour les traiter mathématiquement. C'est important, enfin, on avait un frère qui était astrophysicien qui nous avait bien expliqué ça. À la différence de la technique, hein, qui elle, tout ce qui est technique est beaucoup plus concret. Donc le deuxième regard, c'est le regard philosophique, qui d'une certaine manière est né avec les présocratiques, et qui est très différent. Il ne s'agit plus du premier moment de l'univers, ni du premier moment de la vie, ni de savoir comment est né l'univers, comment est apparue la vie, mais de savoir l'homme est-il cause de lui-même. Ça veut dire l'homme est-il premier ? L'homme est-il absolument premier ? Et s'il y a un autre premier que l'homme, quelle est cette relation entre ce premier et l'homme? C'est ça la question du philosophe. Vous voyez, elle est complètement différente. La question du philosophe, elle n'est pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Elle est de savoir qu'est-ce qui se passe tout de suite. Suis-je absolument premier? Suis-je créateur de moi-même? Suis-je uniquement le fruit de mes parents? Suis-je uniquement un hasard matériel? Ou bien est-ce que je suis en référence à quelque chose de premier? Et quel est ce lien entre ce premier et moi, s'il y en a un? Ça, c'est le problème philosophique. Et puis, il y a un deuxième axe. Alors ça, c'est déjà la question des présocratiques. Hein. De l'éveil, on va le voir, de la philosophie face aux traditions religieuses. Autrement dit, l'homme s'explique-t-il par lui-même? Alors, ce qu'il faudrait faire, mais on n'a évidemment pas le temps de le faire, c'est de regarder toutes les... Je vous renvoie au livre de Jaeger qui s'appelle « La naissance de la théologie ». Il s'appelle Wolfgang ou Walter ou quelque chose comme ça. C'est un double V. La naissance de la théologie, c'est sur les présocratiques. C'est dans la collection Cogitatio Fidei. Et présentement, il étudie les premiers théologiens. Ce qu'il appelle les premiers théologiens. C'est-à-dire les premières tentatives chez les présocratiques de réflexion théologique. Entre autres sur la création. Et il y a un deuxième axe, hein, alors qui lui rejoint plus la science, qui est la question du premier moment du devenir. Quelle est l'origine du devenir? Quelle est la cause du devenir? Vous voyez, elle est relative à celle-là. Si l'homme n'est pas premier, est-ce que le mouvement est premier? Est-ce que le devenir? Est-ce que l'univers matériel est premier? Quel est le lien entre ce premier et l'univers? Non seulement actuellement, mais dans son origine. Ça, c'est un second problème. Et qui est, philosophiquement, on le reverra, relatif à celui-là.
Oui. Est-ce que cette réflexion des présocratiques était à partir des données religieuses?
Oui, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Parce que, effectivement, le troisième regard, c'est le regard mythique du mythe, et des traditions religieuses. Quand je prends mythe, ça n'a aucun caractère négatif. C'est-à-dire, c'est une histoire symbolique, le mythe. Une histoire symbolique d'explication globale de l'homme et de l'univers. Enfin, d'explication. De représentation. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'apparition de la pensée scientifique face aussi aux cosmogénèses, alors plus dans le sens scientifique, ce qu'on appelait la cosmogénèse ou l'ontogénèse, c'est-à-dire au fond la représentation symbolique de l'apparition de l'homme et de l'univers. Là, j'ai pas le temps de vous en lire un morceau, mais par exemple, on le reverra, mais les premiers récits de la Bible font partie de ces histoires symboliques. Pour nous, ils sont paroles de Dieu. Mais ils font partie de ces histoires symboliques. Et dans toutes les grandes traditions religieuses, il y a un récit de l'origine. Souvent avec le thème de la chute. Ou vous voyez, où souvent l'apparition de l'univers est représentée ou bien par une scission de la divinité, ou bien par un engendrement des divinités, un engendrement successif, ou bien par une dégénérescence des divinités. Donc la question d'une grande partie de la mythologie, c'est comment est-ce que le divin a été source de l'humain et du matériel. Et très souvent, le modèle est celui de la génération. Ou comment le divin a engendré la matière. Ou comment la matière s'est séparée du divin. Et le mythe et la tradition, le mythe et les récits symboliques des traditions religieuses font essentiellement donc référence à la deuxième question. La question, elle n'est pas précisément quel est le lien actuel entre l'homme et Dieu, au sens du lien dans son être. Ou plus exactement, je dirais le mythe voulait répondre à cette deuxième question par la première. Elle me donne l'origine, elle me décrit l'origine. Et cette description de l'origine, cette représentation de l'origine, est un modèle pour ma relation actuelle avec Dieu. Vous voyez ? Alors que le philosophe se pose la question à l'envers. Le philosophe ne se pose pas d'abord la question « comment ça s'est passé au début ?» Et du coup, qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Ça, c'est le mode de la pensée symbolique, qui est un mode génétique. Hein ? C'est un mode génétique. Alors que le travail philosophique n'a pas d'abord un mode génétique. Il a d'abord un mode de pensée, un mode de perfection, un mode de nature. C'est que je vais d'abord me demander quel est le lien entre l'homme et le divin. Et à partir de ça, puis-je dire quelque chose de ce qu'aurait pu être l'origine? pour ça que la philosophie, elle est plus rassurante pour tout de suite, mais elle est plus inquiétante pour l'origine, parce que j'ai le regard moins clair. Alors que la pensée symbolique et mythologique, elle est plus rassurante pour l'origine. Mais elle est plus inquiétante, parce que s'il y a une erreur sur l'origine, il y a une erreur sur le regard que j'ai actuellement avec Dieu. Parce que dans un cas, je travaille sur la représentation, essentiellement, qui implique une signification. Mais dans l'autre cas, mais il y a d'abord une cohérence symbolique dans le mythe. Alors que le philosophe ne cherche pas d'abord à être cohérent symboliquement. Il cherche d'abord à rejoindre la réalité dans sa constitution. Alors c'est intéressant parce que chez les présocratiques, on voit ces efforts progressifs pour se dégager de la représentation. Et on a déjà, enfin on a encore chez les présocratiques des méta-mythes. Vous verrez parce que c'est ça qui est très intéressant dans les premiers récits de l'Écriture, c'est que la manière dont nous est présentée la création est en même temps symbolique et en même temps il est très précis du côté de la signification. C'est presque une exception. Ensuite, il y a un quatrième regard, qui est celui de la révélation. Ce regard tel qu'il nous est révélé à travers l'Écriture, à travers la parole de Dieu. Alors c'est évident que celui-là, on devra l'aborder. Et puis, quel est le lien par rapport à l'Écriture, notamment dans les récits de la Genèse, de l'origine, et par rapport au Christ. Qu'est-ce que le Christ me dit de la création? C'est ça, si je suis chrétien, ma première question, c'est ça. Qu'est-ce que le Christ me dit de la création? Qu'est-ce que le Christ me révèle de la création? C'est même pas d'abord qu'est-ce que l'Écriture me révèle de la création. C'est d'abord qu'est-ce que le Christ. Alors c'est clair que notre interrogation à nous, elle est de poser la question de la création à l'intérieur de la foi. Je dirais les autres regards, on peut les développer, mais au point de vue strictement théologique, c'est à l'intérieur de la foi. Et à l'intérieur de la foi, il y a un double axe. La première manière de se poser à l'intérieur de la foi la question de la création, c'est qui suis-je devant Dieu ? Et devant Jésus-Christ comme fils de Dieu. Qui suis-je pour lui? Vous voyez, c'est à l'intérieur. Au fond, c'est une question qui est posée à l'intérieur de l'adoration, la création. Quel est le lien qui m'unit à celui que j'adore? Et qui suis-je devant lui et pour lui? Vous voyez, qui suis-je devant lui? C'est-à-dire, qui suis-je par rapport à lui? Et qui suis-je pour lui, c'est-à-dire quelle est son intention sur moi? Je dirais quelle est son intention comme homme, pas comme enfant de Dieu. Enfin, ça ne s'oppose pas, hein, puisque c'est l'homme qui est enfant de Dieu. Mais quand je dis qui suis-je devant Dieu, c'est en tant qu'il est Dieu. Pas en tant qu'il me donne la grâce. Oui, je précise. Quand je dis qui suis-je devant Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est pas en tant qu'il me sauve, c'est en tant qu'il est Dieu. Et à ce moment-là, le travail de la réflexion théologique va être une coopération à mon acte de foi. Je crois que c'est capital de voir ça, de voir que le problème de la création n'est pas du tout un problème en soi, métaphysique, au sens qu'on se le pose depuis toute éternité et qu'on se le posera jusqu'à la fin de l'éternité. C'est une question qui intervient, non pas dans la solution, mais dont la justesse du regard intervient dans mon adoration. Je ne peux pas adorer de la même manière si je suis une émanation de Dieu, si je suis le produit accidentel de la création, si je suis voulu pour moi-même, si je suis voulu pour autre chose que moi-même,
si je suis simplement, vous voyez, un effet artistique momentané. Et si je suis voulu seul pour moi-même, ou si je suis voulu pour moi-même avec mes frères. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'au fond, le statut de l'homme devant Dieu, il va le regard que j'essaye d'avoir et de rejoindre sur l'homme devant Dieu, il ne va pas déterminer mon acte de foi, c'est évident, ni mon acte d'adoration. Parce que mon adoration, elle est mue par l'amour, donc elle est au-delà de ce que je comprends. Mais il va coopérer à ma foi. Il va permettre à ma foi d'être moins imaginative et plus réelle. C'est toujours le travail de la théologie ou de la catéchèse, c'est un travail de décapage, c'est pas un travail d'emmagasinement. C'est qu'à la fin, j'imagine moins et je suis plus devant le mystère. Mais je sais rien de plus. Si c'est, je sais que je ne sais pas bien. Et je sais ce que je savais faux. Et donc mon intelligence est plus immédiatement en face du mystère. Et donc ma foi peut être plus pure. C'est pour ça que c'est pénible. Et en même temps, heureusement que c'est dans la foi. C'est pour ça que la question, je crois qu'il ne faut pas se la poser d'abord philosophiquement, parce qu'il faudrait un courage qu'on n'aurait pas. L'avantage de la foi, c'est que j'aime le Christ. Ça m'est donné. Et donc, je dirais, c'est une nécessité de comprendre qui il est et qui je suis devant lui. Donc, je dirais, l'ardeur à la tâche, elle est mue par la charité, ce qui est plus facile que notre petit courage humain. Et puis, il y a un deuxième axe. Qui est relatif à ce premier, hein, c'est qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce que l'homme dans l'économie divine ? J'aurais peut-être dû souligner tout à l'heure, ça ne s'oppose pas ces différents regards. Ils peuvent coopérer les uns avec les autres. Le regard scientifique, philosophique, mythique, et puis celui de la révélation. Ils peuvent s'enrichir les uns les autres, puisqu'ils sont différents regards sur la même réalité. Le tout, c'est que je les distingue pour ne pas les confondre. Vous savez, le propre du concordisme, c'est de vouloir partir de la science et de la faire coïncider avec le regard de la révélation. Et le fondamentalisme, c'est l'inverse. C'est vouloir partir de la révélation et en déduire ce que la science devrait comprendre. Donc c'est important de voir qu'il y a une complémentarité. Mais que c'est vrai que l'outil de la purification de l'intelligence croyante, c'est la philosophie. C'est l'outil de purification. Parce que ça m'oblige à ne pas imaginer, à dépasser l'imaginaire plus exactement. Ou à mieux comprendre ce qu'il y a de juste dans mon imagination aussi. Et notamment pour le croyant, on le reverra, hein, c'est de comprendre la richesse du symbolisme biblique. Et comment il y a quelque chose que le symbolisme biblique me dit que l'intelligence philosophique ne peut pas atteindre. Mais pour ça, il faut déjà que je fasse cet effort de compréhension. Alors, du côté de la foi, donc il y a ce premier regard. Qui suis-je devant Dieu ? Devant et pour Dieu. Et puis le second, c'est qu'est-ce que l'univers ? Parce que c'est étonnant, mais de manière immédiate, dans la foi, l'univers, il n'intervient pas tout de suite. Et mon lien avec le Christ, c'est pas de... l'univers n'intervient pas immédiatement dans mon lien avec le Christ. Par contre, il intervient quand je me demande qu'est-ce que l'univers et l'homme dans l'économie divine, c'est-à-dire dans le dessein de Dieu. Je crois que le mot le plan de Dieu, c'est pas très juste, mais... qu'est-ce que Dieu a voulu quand il a créé l'univers ? Et quelle est la signification de l'apparition de l'univers et de l'homme ? Qu'est-ce que pour Dieu l'apparition de l'homme ? Vous voyez, pas simplement qu'est-ce que pour Dieu, quel est le lien entre Dieu et l'homme actuellement ?
Mais qu'est-ce que pour Dieu l'apparition de l'univers matériel et de l'homme? Alors, à ce moment-là, je peux poser la question de l'apparition de l'univers et de l'apparition de l'homme. Parce que je prends le regard de Dieu. Enfin, je prends, oui. Je veux essayer d'entrer dans le regard de Dieu. En fait, j'y entre par la foi, hein, le regard de Dieu. Et mon travail de téléjude catéchèse, il est simplement de coopérer à ce que je fais quand je crois. Et donc, c'est le problème de l'origine. Vous voyez, l'économie divine, c'est le devenir des actions de Dieu dans le temps. Et donc, il y a la question de l'origine, qui est inséparable de la question du terme, d'ailleurs. Et donc, ce qu'on appelle la création sera inséparable de ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, ça veut dire le discours sur ce qui est au terme. Pourquoi ? Parce qu'en Dieu, l'alpha et l'oméga se tiennent. Mais cette origine, elle ne m'intéresse pas simplement archéologiquement. Elle m'intéresse parce qu'elle est actuellement présente. Alors ce qu'on va essayer de faire, de commencer légèrement à esquisser, puis on le retravaillera plus demain, c'est de voir que donc le problème de la création pour le croyant, hein, puisque c'est ça qu'on essaye de comprendre. Notre effort n'a pas à être le même, je dirais même que celui de Jésus, ou que celui des pères de l'Église, ou que celui des théologiens du Moyen-Âge. Il a à être plus grand. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un monde, à une humanité, au moins occidentale, qui ne sait rien sur la création. Qui ne le sait même plus par ses traditions, parce qu'elle ne les a plus. Vous voyez ce que je dis ? C'est que, on va le voir, Jésus s'adresse aux Juifs en considérant comme un présupposé le problème de la création. La tradition religieuse juive véhicule un regard sur le Créateur et la création qui est rectifié, vous voyez, qui est parfaitement rectifié. Enfin, au moins en partie. Et Jésus le présuppose. Alors que nous, on ne peut rien présupposer du tout. Pas pour, simplement pour les autres, hein, pour soi, on ne peut rien présupposer du tout. Parce que la tradition vivante sur la création, elle est assez endormie depuis un certain temps. D'affirmer qu'on est une créature et qu'on a un créateur, ça c'est facile. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on dit. Ou qu'est-ce qu'on vit. C'est pas parce que je le dis que je le vis. Et c'est même autre chose que... Vous voyez, je pense à Saint Paul. Saint Paul à Athènes. Vous avez remarqué, c'est très fin, même si le pauvre Saint Paul, ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire que ça allait bien quand il restait sur le terrain de la théologie naturelle. Puis quand il a commencé à franchir, à essayer de faire de la théologie chrétienne, là, on lui a ri au nez. Alors, est-ce que c'est sa faute ou est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas, ils voulaient pas le recevoir? Il y a sans doute des deux. Mais quand il dit le Dieu qui a fait le monde, donc il s'adresse à des gens qui ont une tradition religieuse. Aujourd'hui, vous dites le Dieu qui a fait le monde, il y a 20 doigts qui se lèvent en disant mais au fond, pourquoi est-ce que c'est certain qu'il a fait le monde? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toute chose. Si d'un principe unique, donc vous voyez, il est philosophe là. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. Il sous-entend qu'ils sont capables de comprendre ça. S'il a fixé des temps déterminés et des limites de l'habitat des hommes, c'est afin qu'ils cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie des hommes. Alors après ça, il passe à l'économie divine, hein, sur le thème du jugement. Et puis c'est au moment où il parle de la résurrection des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ce qu'on va faire. Donc on gardera le regard biblique, en comprenant comment le regard biblique ne nous suffit pas, parce que précisément il s'inscrit dans une tradition religieuse. Et donc on a, en plus du regard biblique, à avoir un regard théologique. Oui, le regard biblique nous prépare, il nous donne ce que Dieu nous dit, mais je dirais, il nous donne ce vis-à-vis de ce face à quoi on va devoir être intelligent. Ce que Dieu nous dit, et ensuite, de notre côté, il y a à apprendre à l'écouter, et à comprendre autant qu'on en est capable ce qu'il nous dit. Mais il faut commencer par écouter. Ça, c'est l'accueil de la parole de Dieu, ce qu'on fera. Et dans un deuxième temps, on essaiera d'appliquer notre intelligence à ce que Dieu nous dit.